Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Elles font partie des bonnes fées de la radio. À chaque fois qu'elles passent, se dégage un parfum de femme. L'une n'arrive presque jamais sans quelques douceurs et l'autre semble apporter avec elle les voyages de ses lectures. En cette presque veille d'été, je me suis dit autant par flemme que par gourmandise qu'il était bon de les inviter pour avoir quelques pistes de lecture, mais surtout pour qu'elles nous transmettent un peu de leur goût de lire, cette manière de se tenir avec soi-même, cette escapade intérieure qui, par la seule force des mots, tour à tour guérit, fait grandir, aide à aimer, révèle la poésie du quotidien, la force des mots, des paroles. Pas très païen tout ça, non ? Cette émission Vivante Église, ce matin, et si on lisait cet été, tout simplement, conseil de lecture pour cet été, avec donc nos deux dames littérature de la radio, Monique Fauché, productrice de l'émission Parole d'auteur, diffusée le mardi, pardon, le mardi à 19h, et Sylvie Ostry, le coup de cœur des jeunes, c'est donc une chronique que vous tenez, et c'est donc le vendredi à 8h12.
Absolument.
Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Emmanuel, bonjour Monique.
Et des rediffusions pour chacune. Vous avez vu, je vous ai servi en introduction.
Ah oui, tout
mais
à fait.
Monique n'a pas rougi.
Non, jamais.
Alors, vos conseils de lecture. Vous êtes donc les deux Madame Littérature. Alors, je dis en préambule de l'émission qu'on avait fait l'effort d'essayer d'inviter l'un ou l'autre de nos chroniqueurs pour des livres, on va dire, spirituels. En général, vous êtes trois sur ce plateau. Et puis, ils n'étaient pas disponibles. Mais ça tombe pas plus mal le vendredi. C'était un peu l'émission du grand large. On va commencer avec vous, Monique, pour un livre sur une réalité terrible, mais abordée de manière originale. C'est un livre qui s'appelle « Le fil de nos vies brisées », écrit par Cécile Aignon. Cette femme est journaliste au Monde. Elle a été correspondante à Beyrouth pendant un certain temps. Et elle est allée en fait à la rencontre, on va dire, des exilés de cette guerre pour, on imagine, après avoir couvert ce conflit, probablement en partie à distance, pour essayer de voir en fait la guerre, on va dire, de l'intérieur.
Oui, Emmanuel. Alors, il se trouve que c'est une correspondante de guerre, qui, une toute jeune femme, charmante. Elle est venue ici, dans nos studios, et elle a parlé d'Alep qu'elle ne connaît pas. Elle me dit « Je connais bien des lieux de Syrie, mais pas Alep ». Mais elle a parlé surtout de ses habitants. Alors c'est vrai, il faut savoir, et nos auditeurs le savent sans doute, que l'exceptionnelle beauté et la vitalité d'Alep, qui est berceau d'une longue histoire, notre histoire, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'une des plus vieilles villes du monde à avoir été constamment habitée depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, eh ben, tout cela a été détruit et il n'y a pas si longtemps, en 2016.
J'ai regardé les photos du coup à cette occasion, parce que moi je ne suis jamais allé à Alep. Entre Alep avant et Alep aujourd'hui, c'est vrai que c'est terrifiant.
Vraiment, désolant, terrifiant. C'est un champ de ruines. Et pire encore, que sont devenus ces hommes et ces femmes jeunes, pleins d'espoir, éclatants d'énergie et de courage, qui se sont battus à la fois contre le régime en place que l'on connaît et contre les djihadistes.
Voilà, Alors ça, c'est intéressant, il faut le préciser, parce que certains, de la part de la journaliste du Monde, pourraient se dire qu'ils seront en partie énervés par ce récit, mais ce récit fait la part, on va dire, à toutes les exactions et toutes les horreurs de la guerre, et elle explique bien que cette population s'est sentie, on va dire, pris en sandwich et trahie, et à la fois par les extrémistes musulmans et par le gouvernement.
Et soutenu par personne, en final. Voilà. Et alors, ce que l'on découvre aussi, c'est que beaucoup sont morts, énormément, blessés gravement, torturés et disparus. Il y en a dont on n'a jamais retrouvé les corps. Et elle a recueilli les récits de certains d'entre eux qui étaient dans des camps, après s'être battus vraiment d'une manière, avec un courage admirable. Certains, il y a des témoignages d'autres journalistes d'ailleurs. Elle a recueilli ces récits. Et d'une manière que j'ai trouvée très, très forte, parce qu'elle s'efface et elle questionne avec beaucoup de retenue et beaucoup de respect. Et ces jeunes gens racontent leur révolte contre la dictature, le refus du djihadisme. Et
est-ce que vous avez un exemple d'un de ces récits, peut-être ? Est-ce qu'il vous revient l'un ou l'autre ?
Non, j'aurais dû noter. Non, je suis désolée.
Non, mais je vous en prie.
Non. Et puis, ils croient en un avenir meilleur. Je me dis que c'est le symbole de la jeunesse, finalement. Hein. Ils y croient, ils se battent, ils ont le courage, et puis elles parlent de leur désespoir. Alors, cet ouvrage, je le trouve très précieux, parce qu'il recèle la mémoire et la parole de ceux qui l'ont perdu, parce qu'ils ont perdu. Et ça fait réfléchir quand même, parce qu'on sait qu'il y a des guerres qui sont gagnées par des gens qui ne mériteraient pas de la gagner. Et d'ailleurs, les guerres, bon, c'est toujours un échec, hein, on est bien d'accord. Mais quand des gens qui se sont battus pour une bonne cause ben, perdent, c'est terrible parce que même les vivants sont enterrés, si je peux dire. Voilà. Alors... Le fil de nos vies brisées, oui, ce sont des vies brisées.
Elle raconte aussi, en tout cas j'ai noté ça dans une interview, que c'était l'occasion aussi de grandes divisions dans les familles, de ruptures parfois conjugales, parce que entre mari, époux et enfant, enfin épouse pardon, et enfant, on n'était parfois pas du même bord. C'est une autre réalité de cette guerre.
Oui, exactement. Et puis des séparations tragiques, et puis ils se perdent de vue. Il y en a qui sont partis dans les camps, ils ne savent pas où. Il y en a qui ont disparu, comme je vous le disais. D'autres qui sont tués, ont-ils été enterrés ? On n'en sait rien, finalement. C'est terrible. Et alors, ce qu'elle dit à un moment donné, ce qui est poignant avec eux, c'est qu'ils avaient la vigueur de la jeunesse et ses idéaux, sans doute réservés à cet âge-là, qui leur faisait penser qu'eux pourraient, contrairement à leur père ou à leur grand-père, changer leur monde. Parce que, bon, le régime dictatorial existe depuis pas mal de temps quand même. Hein. Ce qui est tragique, c'est de voir à quel point leur innocence, leur jeunesse s'arrête de façon aussi brutale par les combats, par les bombardements, par les destructions qui s'abattent autour d'eux. Et c'est vrai ce que vous dites, il faut penser quand même qu'ils se battaient également contre les djihadistes. Hein.
Dernière chose, dans l'interview que j'ai vue d'elle, elle laissait entendre aussi que d'aller au plus proche comme ça de ces histoires de guerre, on voyait aussi autre chose que toutes ces horreurs, c'est-à-dire des solidarités extraordinaires entre familles, voisins. Est-ce que vous pouvez comment dire un mot ? Est-ce que ça vous a marqué malgré tout ?
Oui, ce qui m'a marqué, c'est justement ce courage d'aller chercher des blessés, ce courage de recueillir des blessés alors que la ville était à feu et à sang et que les forces ennemies, si je peux dire, de part et d'autre, progressaient. C'est vrai que, bon, je ne vais pas vous donner des exemples précis parce que là, je n'en ai pas. Et malheureusement, je n'ai plus le livre. Voilà, je l'ai prêté, il a disparu.
Alors, est-ce que vous vous souvenez malgré tout de l'éditeur, donc
oui, alors c'est Anne Carrière, des éditions Anne Carrière. Et c'est un livre qui est prenant, ça montre quand même déjà un échec total de notre civilisation. Ça montre également ce que les jeunes peuvent faire et ce qu'ils peuvent souffrir. Ce sont des vies brisées, voilà. Voilà.
Le fil de nos vies brisées, Cécile Aignon, donc aux éditions Anne Carrière. Alors après, votre deuxième choix, vous en avez choisi un peut-être pour nous remonter le moral.
Oui. Voilà. J'en ai d'autres, hein, si vous voulez, plusieurs.
Dans un tout autre genre, en l'occurrence, donc, il s'agit donc du vol de la Joconde de Dan Frank.
Alors Dan Frank est également venu dans l'émission.
Décidément.
Et lui, Dan Frank, est très connu également dans le monde littéraire, mais dans le monde cinématographique, parce qu'il écrit beaucoup de scénarios. Alors là aussi, je n'ai pas en tête, mais films connus. Là, On a volé la Joconde, c'est édité chez Grasset. Alors, c'est beaucoup plus ludique, même parfois franchement drôle. Alors, si vous voulez, c'est une sorte de traversée de Paris. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film, où vous êtes trop jeunes tous les deux. En fait, La traversée de Paris, c'est un film dans lequel Jean Gabin et Bourvil traversent Paris. C'est pendant l'occupation, c'est une histoire de marché noir. Ils ont une valise pleine de... je crois que c'est un cochon qui a été tué, ils le transportent. Ils doivent se cacher, enfin bon. Et tout ça, c'est très drôle. Mais là, en fait, cette traversée de Paris va s'effectuer par Picasso et Apollinaire.
Alors ça se passe au début du XXe siècle, un petit peu plus tôt.
Voilà.
À une affaire entre le vol de la Joconde. Histoire vraie d'ailleurs, j'ai découvert
ça. Une histoire vraie, parce qu'en 1911, on a effectivement volé la Joconde. Alors on ne le sait pas, la plupart du temps, on ne sait pas que la Vaule Joconde a disparu un temps. Et il paraît qu'en fait, on volait sans difficulté dans le musée du Louvre.
Il paraît que Picasso avait lancé une boutade à l'une de ses maîtresses. « Je vais au Louvre, qu'est-ce que je te ramène ?» C'est ce que raconte l'auteur.
Oui, et alors justement...
C'est inimaginable ça aujourd'hui.
Ben, oui, il paraît que c'était vraiment la porte ouverte. On y entrait comme dans un moulin et c'était très facile. Mais à l'époque, peut-être que les gens n'avaient pas l'idée. Il n'y avait pas cette histoire d'argent maintenant. Vous vous rendez compte, vous volez un chien en plastique de Kunz et c'est des milliards qui s'en
Mais il n'est pas au Louvre encore.
Comment ? Non, il n'est pas encore au Louvre, mais ça ne saurait tarder, je pense.
Bon, alors, voilà. L'histoire, peut-être racontez-nous en quelques mots l'histoire.
Alors, voilà.
Donc, la Joconde est volée et comment Picasso et Apollinaire se trouvent.
Parce qu'il se trouve, ça c'est bien ennuyeux, qu'il recèle des têtes antiques espagnoles, probablement volées au Louvre et probablement par le même voleur qui a volé la Joconde. Je dis bien probablement parce qu'en fait, ils ne savent trop. Ils ne savent pas trop, mais ils se disent s'il est pris et s'il est cuisiné, il va nous dénoncer. Alors, évidemment, on comprend leur angoisse. Hein. Ils ne sont pas encore connus, mais ils savent intimement, parce qu'ils sont sûrs d'eux, mais ça, on pourra en parler, qu'ils vont être connus, surtout Picasso, ça, il le sait. Pendant 5 jours, on va suivre les deux compères dans un Paris. Alors, un Paris bien sympathique, c'est le Paris bohème et désargenté. N'oublions pas qu'ils sont jeunes hein, quand même aussi, donc ça ajoute au côté ludique de leur aventure. On va découvrir grâce à eux ce milieu au début du XXe siècle. Donc. Et ça fait découvrir également les œuvres majeures de tous les artistes et surtout leur caractère et leur manie. Bon, du trio, de de personnages.
C'est-à-dire qu'on découvre du coup les artistes de cette époque.
Ah oui.
Voilà.
Oui. Et ça, c'est
très intéressant. Ils vont les rencontrer. Et alors, ce que j'ai compris, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il mêle la fiction. C'est-à-dire que pour lui, c'est une manière de faire découvrir ce Paris extraordinaire oui. où des artistes du monde entier
se retrouvaient
à Montmartre, etc. Et en même temps, il y a un fil rouge qui est vrai, puisque semble-t-il, ces pièces volées étaient de fait chez Picasso et il a été traduit en justice pour ça.
Oui, effectivement. Et puis d'autre part, tout ce qu'il raconte. Alors souvent, il y a des propos qui ont été effectivement tenus par l'un ou par l'autre. Et quand il invente, parce que quand même, il y a des choses qu'il invente, en fait, il dit, mais c'est leur caractère. Et croyez-moi, Dan Frank s'est énormément renseigné, énormément étudié. Alors voilà. Alors, on y apprend beaucoup de choses. C'est très érudit. Mais c'est aussi plein d'humour et de poésie. Alors, est-ce que vous voulez que je vous cite un extrait ?
Allez-y.
Avec plaisir.
Alors, il y a Jarry souffre d'un double drame, explique Apollinaire à Picasso. Tu n'en connais qu'un, l'herbe sainte. Picasso, ben, c'est quoi l'herbe sainte ? L'absinthe. Et l'autre drame, il n'est pas l'auteur du Bourrois. Merdre, s'écrie à son tour Picasso. C'est une citation du Bourrois, hein, le merdre en question. Interloqué, mais je ne te crois pas. Il n'est pas le seul, mais Guillaume a raison. Alfred Jarry n'est pas l'auteur de cette œuvre qu'il a pourtant consacrée. Quand à 16 ans Jarry est arrivé à Rennes, la pièce était déjà écrite. Elle avait été créée par des élèves qui se moquaient à travers elle d'un de leurs professeurs. Jarry s'est contenté de lui donner son titre, de nommer le personnage principal et très probablement d'ajouter quelques scènes. Scénario facile à imaginer, difficile à porter, surtout quand le prête-nom d'une telle œuvre est par ailleurs l'auteur de livres remarquables dont l'histoire littéraire a peine retenu les titres.
Le vol de la Joconde, donc de Dan Frank. J'ai lu aussi que l'auteur, enfin cette citation de l'auteur, dans une interview, ce n'est pas un hasard si je raconte ça en ce moment, alors que l'on parle de l'absence de générosité de l'Europe. On peut imaginer l'absence de générosité dans l'accueil des migrants. C'est-à-dire que et j'ai lu par ailleurs que c'était pour lui une sorte de manifeste de la fraternité en dehors du plaisir qu'il avait à parler de ce Paris.
Alors tout à fait, parce que vraiment, ce que l'on voit, c'est que Picasso est étranger, Guillaume Apollinaire aussi.
Parce qu'il faut dire qu'ils avaient peur, parce qu'ils avaient peur de se faire expulser.
Oui, ils avaient peur de se faire expulser, mais quand on voit la quantité d'auteurs d'auteurs, de peintres, de littéraires connus, ce sont quand même, la plupart sont étrangers. Blaise Cendrars également. Enfin, on est étonnés et admiratifs. Mais en même temps, effectivement, s'il lève le petit... Ouais, Picasso était surveillé, parce que Picasso avait quand même des idées très révolutionnaires quand même. Hein. Il l'a toujours eu. Et il était surveillé. Et comme il n'était pas encore connu, il risquait fort de se faire expulser. Donc, il y avait ça aussi, en filigrane.
Le vol de la Joconde de Dan Frank, paru aux éditions Grasset. On va faire une première pause et puis on va vous retrouver avec une petite surprise pour Monique Fauché.
Emmanuel Pella.
Et si on lisait cet été, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, donc avec nos deux dames littérature de l'antenne, Monique Fauché, productrice de l'émission Parole d'auteur, diffusée le mardi à 19h, et Sylvie Ostry, donc chroniqueuse en charge de la chronique Coup de cœur des jeunes, c'est le vendredi à 8h12 dans la matinale. Vous avez choisi deux autres livres, Monique. Le Dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson, qui est publié par Jean-Marie Roire, ancien directeur de la rédaction du Figaro littéraire. On sait à cette antenne donc, que vous aimiez beaucoup Jean d'Ormesson, sa littérature. Et j'ai retrouvé, donc, semble-t-il, la dernière interview que vous aviez faite de lui. Il avait accepté de répondre à une question. C'était à l'occasion du Radio Don 2017, disons son soutien à la radio. Ce n'est pas une interview, mais je me suis dit que voilà, ça pouvait être une manière de l'inviter dans cette émission.
Jean d'Ormesson, vous êtes souvent venu à Radio Présence nous faire partager vos réflexions, vos interrogations et votre humour. Vous le savez, nous ne faisons pas de publicité sur nos ondes, mais nous avons besoin de l'aide de nos auditeurs. Que pouvez-vous leur dire ?
Eh bien, je suis souvent venu en effet à Radio Présence à Toulouse et toujours avec le plus grand plaisir et avec beaucoup d'intérêt. C'est une émission... C'est une radio excellente. Et plus particulièrement, l'émission à laquelle je participais, qui s'appelle Parole d'auteur, ce sont des instants où on peut vraiment parler culture et parler littérature. Et je voudrais appeler tous les auditeurs à soutenir le mieux possible et le plus possible notre radio à tous, Radio Présence.
Un grand merci, Jean d'Ormesson, et je vous souhaite une très bonne journée et une
merci à vous.
Bonne santé.
Voilà, donc ça c'était un petit coup de chapeau qu'il avait donné à votre émission lors du Radio Don, donc 2017. Alors, vous voulez dire quelque chose avant qu'on parle de la suite ou non ?
Non, non, je peux rien dire, parce que d'abord je suis émue, c'est vrai. Et puis dire que combien, c'est vrai, il avait plaisir à venir à cette radio et combien il était différent du personnage public envoyé à la télé. Voilà, il était très, très naturel, très attentif. Je me souviens qu'il allait voir Christophe pour discuter avec les jeunes, avec les techniciens, vous voyez, et d'une manière très simple. Et puis il restait, c'est moi qui donnais le signal du départ. Il sentait bien ici.
Alors, de fait, est-ce qu'on peut dire la même chose quelque part de ce dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson, donc qui est publié par Jean-Marie Roire, donc autre académicien qui était, semble-t-il, un intime et un ami. Je vais citer juste un extrait. Avec la disparition de Jean d'Ormesson, s'efface un certain art de vivre issu des romans de Proust, des actes de bravoure, de la résistance, des boiseries, des châteaux centenaires, des poésies, de la philosophie, de la culture, des voyages et de la courtoisie. C'est tout ceci que célèbre et enterre simultanément l'auteur. Et j'aurais pu trouver une autre citation, surtout en fait on entend Jean-Marie Roy, alors c'est peut-être plutôt dans une interview, on peut lire qu'il a perdu vraiment un ami cher, qu'il appelait semble-t-il tous les jours, et où lui il entretenait cet art de la conversation quelque part que Jean d'Ormesson entretenait avec tous les Français.
Oui, alors pour la petite histoire, Jean-Marie Roy est également venu à la radio à plusieurs reprises, et j'ai raconté, je sais que Sylvie Austrie était là, j'ai raconté que j'ai fait pleurer Jean-Marie Rouard.
Oui.
Pour la petite histoire, j'ai eu le temps de... Ça va être bref.
Bah, allez-y, racontez.
En fait, il avait écrit un livre très beau sur sa famille, c'était, je crois, À l'ombre des Lumières, un titre de ce genre. En fait, il était d'une famille où il y avait des grands peintres, de grands écrivains. Et à un moment donné, je lui dis, écoutez, il y a un passage que j'aime beaucoup. J'ai trouvé que c'était un très beau paragraphe. Il écrit bien, Jean-Marie Roy. Il est à l'Académie française, c'est pas étonnant. Après, bon, on n'aime pas ses romans. Et toujours est-il que j'ai lu cet extrait. Il s'agissait de sa mère. Quand j'ai arrêté de lire, c'était court. Il avait les yeux pleins de larmes. Voilà, j'ai fait pleurer un académicien. Et alors, quand il
parle... Preuve, en tout cas, que comme Jean d'Ormesson, il se sentait peut-être ici bien, ou on n'était pas dans les grandes rédactions parisiennes, où c'est peut-être parfois plus difficile à gérer pour eux.
Oui, sans doute. Et puis la télévision aussi, c'est différent. Il faut gérer son image. Alors, ce dictionnaire... Eh bien, écoutez...
Paru aux éditions...
Aux éditions Plomb. Que dire ? C'est vrai qu'ils sont très amoureux, c'est vrai qu'il n'y a pas de la part de Jean-Marie Roire de la flagornerie, pas de flatterie excessive, même parfois un peu d'acidité méritée, parce que Jean d'Ormesson, je l'ai appris là-dedans, lui a fait un coup pendable, mais nos auditeurs iront le voir dans ce livre. Et en particulier... une nuance d'acidité en ce sens que Jean-Marie Roire était au Figaro quand Jean d'Ormesson était directeur du Figaro. Et ça a été un exécrable directeur. Je pense qu'il n'était pas fait pour ça. Ça l'ennuyait dans le fond. Il n'était pas fait pour prendre des décisions, pour trancher dans le vif, parce que parfois il faut le faire. Et il a mis à la porte Jean-Marie. Il a été obligé de mettre à la porte Jean-Marie Roire et Bernard Pivot. Et là, ça c'était la gaffe, mais non, ils se sont réconciliés, et après je crois qu'il a été au moins dans l'émission de Bernard Pivot à 11 reprises, vous voyez.
Alors que voilà. De quoi parle ce dictionnaire amoureux, et surtout comment on y entre dans ce dictionnaire?
Ah ben voilà, mais c'est quel formidable là-dedans. Moi j'aime beaucoup ces dictionnaires amoureux, ces collections. C'est que vous prenez ce que vous avez envie de prendre, vous avez la table de matière, vous feuilletez.
Prenez-nous un exemple, si c'est...
Alors, un exemple. Voyons. Admiration. Il a toujours aimé admirer une myriade de morts, mais aussi une foule de vivants. Il ne lésine pas sur les hyperboles quand il parle de Ronald Syme, grand historien anglais de la Rome antique, successeur de Gibbon, avec lequel il parcourt les ruines de la ville éternelle qui connaît comme nous le métro. Il vante les compagnons inoubliables, plus attachants des cyniques, un égoïste irrésistible, un anarchiste paradoxal et hautement civilisé. Mais j'aurais du mal à citer tous ceux dont il chante et mérite. En dehors des écrivains, il a toujours eu un faible pour les hautes intelligences universitaires. Jean Delumeau, qui l'a soutenu en vain à l'Académie et dont l'échec l'a peiné, mais aussi Jeanne Hirsch, qui, avec son amie Jacqueline de Romilly, comptait parmi ces grands universitaires dont le savoir le grisait. De la même manière, il admirait la formidable culture de Georges Dumézil ou celle anticonformiste de Roger Caillot, Raymond Aron, Marc Fumaroli, Jacques Julia ou Hélène Carrère d'Encausse. Alors voilà, il y a ça. Et puis sur l'éternité, vous voulez, j'ai le temps.
Finalement, c'est comme le vol de la Joconde, en fait, on se promène dans...
On se promène au milieu
absolument,
des mots.
Dans, voilà. Dans une époque intellectuelle et artistique. Alors c'est...
Oui, alors il parle d'espérance, mais vous le savez, et il a dit dans cette radio, qu'il dit « Je ne sais pas si j'ai la foi, mais j'ai l'espérance ». C'est ainsi que Jean voit la croyance en Dieu, la forme d'une espérance, dit Jean-Marie Roy. Et sur l'éternité... Quel sujet pour un homme dont la passion dominante, l'interrogation perpétuelle, le thème central, le cœur incandescent et le temps ? Qu'est-ce qui est éternel ? Nous le savons très bien, c'est ce qui nous attend. Nous sommes destinés à l'éternité parce que nous sommes nés et parce que nous mourons. La vie n'est que le vestibule et la préface à la mort. Naître n'est rien d'autre que commencer à mourir. Et après cette réflexion digne d'un stoïcien, il envisage notre sort sans laisser beaucoup de place à l'espérance. S'il se défend d'être athée, il n'en est pas loin. Un des arguments les plus forts de ceux qui sont persuadés que la mort débouche sur le néant et que ce qui se passe après notre mort ne fait que reproduire ce qui se passait avant notre naissance.
Ça, c'est
etc.
Ça c'est Jean d'Ormesson.
Oui.
Ça, c'est Jean d'Ormesson.
Oui. Voilà. Alors, il était, je pense, toujours dans l'espérance. En tout cas, ici, il a toujours parlé d'espérance. Voilà.
Allez, on avance pour laisser un peu de place quand même à Sylvie Austry.
Oui.
Le dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson, c'est donc Jean-Marie Roir et c'est donc aux éditions Plomb. Vous avez choisi de parler indirectement d'un autre personnage, ou en tout cas d'un de ses livres, sorti il y a quelques temps, pour le coup. C'est un livre de Sylvain Tesson, voilà, aventurier, écrivain, de plus en plus connu du grand public, en tout cas d'une partie, fils de Philippe Tesson, journaliste lui aussi au Figaro.
Oui, chroniqueur théâtral.
Pendant de nombreuses années. Alors, vous avez choisi un livre qui, je crois, date de 2004.
Non. 2018.
Ah bon, pardon. Aphorismes dans les herbes et autres propos de la nuit. C'est un livre, donc, comme son nom l'indique, d'aphorismes. Vous pouvez peut-être commencer par réexpliquer ce qu'est un aphorisme.
Eh bien, c'est quand le soleil se couche, il se met en pyjama.
Très joli.
À travers l'œil de bœuf, il vit une vache. Vivre au jour le jour, nuit. La vie passe trop vite, je n'ai pas le temps d'imprimer. Quel malheur d'être gaucher quand on est de droite. Etc, etc. Oh, la clé de sol va si bien avec la clé des champs.
Joli.
Voilà. Alors, bon. Alors oui, vous avez parlé de Sylvain Tesson. C'est un personnage très, très, très intéressant, avec une très forte personnalité, comme son père d'ailleurs, qu'on a vu souvent à la télévision dans ses chroniques théâtrales. C'est un marcheur, un grand voyageur. C'était...
Un aventurier, oui.
Un aventurier, poète, philosophe, mais un tantinet foldingue hein, quand même, puisque son grand bonheur, c'était d'escalader à main nue des maisons et des édifices publics, y compris Notre-Dame, pour qui il écrira très belles choses, dont on parlera peut-être, si on a le temps. Voilà. Et donc, il a écrit, en particulier, il est parti en Sibérie, et pendant un temps, il a occupé, dans l'extrême nord de la Sibérie, imaginez le froid qu'il devait y faire.
Au bord du lac Baïkal, plus précisément.
Voilà. Et alors,
dans les forêts de Sibérie.
Et sa plus proche voisine était à une demi-journée de marche, et il l'a vu faire peur à un ours. Voilà. Et là, il vivait, il écrivait beaucoup. Il a écrit Sibérie, ma chérie, il a écrit aussi. Il est souvent allé en URSS, enfin en Sibérie plutôt. Hein. Bérénizinat, il écrit également. Voilà. Et l'aphorisme, si vous voulez, pour moi, c'est comme un haïku. Quand il est réussi, on reste bouche bée parce qu'il n'y a rien à ajouter. C'est parfait. Voilà. Alors, ce qu'il dit, aphorisme, partie émergée de l'iceberg de la pensée. Par exemple, éclair, c'est un orage qui a une idée.
Alors moi j'ai noté aussi l'aphorisme comme le voyage est une ascèse, on se débarrasse du superflu, on se rapproche du cœur, de la nature et de la vérité, il faut alors se laisser envahir par la beauté, le silence et aussi la désillusion. Écrire, c'est nommer les ombres des flammes qui accompagnent le vagabond, voilà l'évangile du voyageur, aimer le lointain comme toi-même.
Oui. Oui. C'est beau, il écrit bien.
Il écrit extrêmement bien.
Voilà, alors j'aurais aimé retrouver le texte qu'il a écrit particulièrement sur Notre-Dame dans un hebdomadaire. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé, trop tard, il a dû partir à la poubelle et je regrette. Mais en revanche, est-ce que j'ai le temps rapidement ?
Allez-y, oui.
Je crois plus que jamais.
Donc, c'est un texte qu'il a écrit, oui, qui a été publié, on se disait, dans le journal Le Point.
Je ne sais plus si c'est. Oui, c'est,
bref,
oui,
parce c'est un texte que ça, qu'il a écrit noté. Après que Notre-Dame de Paris ait
voilà,
brûlé.
Exactement.
Le 15 avril dernier.
Je crois plus que jamais, et j'y crois davantage qu'hier, où le brasier ne s'était pas allumé, en la chance de la France d'être une fille chrétienne. Je n'irai pas gaudrioler sur les toits des églises. Je n'irai plus gaudrioler sur les toits des églises. À présent, les mécréants de mon type doivent pousser leurs portes, s'avancer sous les voûtes et se dire ceci. Même si le ciel est vide, il est heureux que des hommes aient inventé cette religion plus lumineuse que les autres. Notre-Dame n'est pas rancunière et ne discrimine pas, car elle n'est pas laïque. Puisse le sourire de la Bonne Vierge continuer à veiller sur les hommes qui croient en elle et sur ceux qui n'y croient pas. S'il venait à s'effacer, qu'aurions-nous à offrir en remplacement ? Des grimaces de Wichita sur le parvis, or le contentement de soi ne fait pas une civilisation.
Voilà, Sylvain Tesson. D'ailleurs, un jour, il faudra presque qu'on fasse, non pas une mission sur lui, mais quelques personnages comme ça, parce que je trouve que c'est un peu des archétypes de notre monde contemporain. Voilà, des gens qui vont au bout et à l'extrême et qui, quelque part, en tout cas, qui cherchent. Sylvain Tesson, donc, Aphorisme dans les herbes et autres propos de la nuit, c'est paru aux éditions
Parallèle.
Parallèle. On redonnera tous les titres. Alors, on va passer du voyage des livres à la bonne odeur des bonbons, si je peux me permettre cette transition. Avec vous, Sylvie Ostry, donc, vous, c'est une chronique donc, coup de cœur des jeunes. Il faut rappeler aussi, peut-être, en deux mots, cette chronique, quelle est son objet ?
La chronique coup de cœur des jeunes, les jeunes présentent leur coup de cœur littéraire. Avec passion, que ce soit des romans, que ce soit des mangas, parce qu'ils lisent aussi des mangas, il y a des mangas très bien, que ce soit des bandes dessinées, tout type de romans, les classiques, les modernes, ceux avec des sagas, des héroïnes venant d'une autre planète, ils lisent énormément et ils le présentent avec passion. Donc n'hésitez pas, écoutez à 8h12 le vendredi matin.
Le 8h12 le vendredi matin. Alors si ça ne vous embête pas, Sylvie, on va faire pas tout à fait dans l'ordre qu'on avait prévu pour que la transition soit un petit peu plus douce avec ce que nous a présenté Monique Fauché. On va prendre le livre, peut-être le livre qui est pour les plus grands, celui dont on devait parler à la fin, « Norman n'a pas de super pouvoir » de Kamel Benaouda. C'est un livre donc paru aux éditions Gallimard Jeunesse, pardon, et c'est un livre qui a reçu le prix du premier roman jeunesse 2018, organisé donc par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama. De quoi cela parle-t-il, Sylvie Ostry ?
Alors, Norman n'a pas de super pouvoir, c'est un roman jeunesse bon, pour les 10-12 ans, qui peut être aussi lu par les parents. En tant que parent, je me suis amusée, c'est drôle, c'est original. Pour vos enfants, la couverture est très colorée, elle est très attrayante. Et je tiens à préciser aussi, pour les parents et pour les jeunes, que c'est un roman tout seul. Pas de trilogie, pas de saga, il n'y a pas X tomes, c'est juste un roman avec un début et une fin. Mais c'est aussi une histoire de super-héros. Alors vous allez me dire encore, Spider-Man, Marvel, Earth X-Man, non. Ou alors un jeune orphelin qui est appelé à être élu pour sauver le monde. Eh bien surprise, dans celui-ci, non. C'est un petit jeune qui a 13 ans et justement, il n'a aucun pouvoir.
À la différence des autres.
À la différence de tous les habitants de la planète qui ont tous un pouvoir. Lui, nada, niente, rien. Donc pour lui, c'est la catastrophe parce que tous les habitants ont un pouvoir. Ils ont un pouvoir depuis qu'il y a eu une épidémie de quelques 30-40 ans avant. Épidémie qui a été créée par l'homme pour que les gens soient moins agressifs. C'était à la suite d'une guerre. Donc un savant a créé une petite molécule. Les gens sont devenus sur le moment tous très bleus, de couleur bleue. Ensuite, ça s'est estompé, mais ils ont tous eu un pouvoir. Et tous les enfants qui naissent depuis ont un pouvoir.
Ils sont tombés dans la marmite.
Exactement. Alors, toutes sortes de pouvoirs. Hein.
Donc, comment il s'en sort sans don spectaculaire ?
Sans don, il doit au début ruser, puisqu'il faut passer un examen. Donc ses amis l'aident, donc ils mentent. Donc c'est vrai qu'on va se dire quand même, c'est l'apologie du mensonge. Non, non, pas du tout, ce sont des ruses. Et de ruse en ruse, ils mettent un plan en place avec des aventures complètement rocambolesques. Et ils inventent des dons. Vous êtes embarqués dans cette histoire complètement loufoque. Les personnages autour de Norman sont tout aussi farfelus. Il a une grand-mère qui est une véritable pépite de vieille dame. Les parents, bon, ce sont les parents. Une grand-sœur avec qui il se dispute. Mais lui, il se sent nul puisqu'il n'a toujours pas de dons. Et c'est ça aussi qu'il faut voir.
Alors j'ai lu, c'est un éloge subtil de l'ordinaire.
Exactement.
J'ai lu ça dans une critique. Expliquez-nous.
Alors, il est différent, il est ordinaire, pas de pouvoir, mais il va, par sa personnalité, il découvre que, d'accord, le point de vue des autres, il n'a aucun pouvoir, il n'est rien du tout, mais grâce aux autres, comment dire, il se sent plus fort parce que c'est ensemble que l'on peut se sentir plus fort, qu'on peut donner de l'énergie aussi pour les autres. Et c'est donc, comment dire, l'apologie de l'amitié, de la force d'être ensemble, d'avancer, de partager. Parce que dans la enfin, quand on est seul, on se perd. Ce n'est pas nécessaire d'accomplir l'extraordinaire. C'est plutôt de garder en tête que l'on n'est qu'humain au bout du compte. Et en tant qu'humain, on peut faire aussi de très belles choses.
Voilà, dans cette même critique, j'ai lu « Pas besoin d'être Superman pour faire de la vie une aventure ». Un éloge subtil de l'ordinaire. On va faire une courte pause. Donc là, c'était « Norman n'a pas de super pouvoir » de Kamel Benaouda. Premier prix roman jeunesse 2018. Organisé par Gallimard Jeunesse, et l'éditeur RTL et Télérama. Voilà, on fait une pause et on vous retrouve.
Présence. Emmanuel Pella.
Et si on lisait cet été, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église, en ce vendredi, pas très loin des vacances, pour certains en tout cas, pour ceux qui partiront début juillet, pour nous guider dans le choix de nos lectures cet été, ou à minima nous donner encore plus le goût de la lecture. Donc Monique Fauché, productrice de l'émission Parole d'auteur, et Sylvie Austry, en charge de la chronique Coup de cœur des jeunes. Alors Sylvie, deuxième choix, Les enfants de la résistance. C'est paru donc aux éditions Le Lombard. Le premier tome, c'est une bande dessinée. Le premier tome est paru donc en 2015. On en est au cinquième. Et vous l'avez choisi, vous disant que c'était d'actualité, puisqu'on fête cette année le 75e anniversaire du débarquement en Normandie, et que ce livre, cette série de BD parle de la Seconde Guerre mondiale.
Absolument. Alors, vous allez me dire, encore un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Ça peut paraître pour certains un peu trop, mais pas du tout. Celui-ci a une approche complètement différente parce que les personnages principaux sont des enfants. Donc l'histoire est très dynamique, on est placé vraiment durant puisque ça démarre au début de la Seconde Guerre mondiale, avec des enfants qui brusquement découvrent que leur petit village, qui a été jusqu'à maintenant épargné par la guerre, est occupé par les Allemands. Tous les habitants du village font tant bien que mal et s'adaptent, font le gros dos. Mais trois enfants refusent de se soumettre à l'ennemi.
C'est dans les Ardennes, il faut le dire aussi, parce que symboliquement, en tout cas, le nord de la France.
Voilà, tout à fait. Tout le monde ne sait pas que ça se situe dans le nord. Voilà, mais quand on est face à l'ennemi, que l'on a 12-13 ans, que faire? Alors que là, les Allemands sont quand même pas vraiment commodes, hein, sont assez terribles. Mais par leurs petites actions, par des petites gouttes d'eau,
Parce qu'ils rentrent en résistance, en fait, qu'est-ce qu'ils font?
Les enfants rentrent en résistance. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont détourner une petite rivière qui va poser de gros dégâts à un chantier qui est en train d'occuper les Allemands. Et donc, c'est vrai que détourner la rivière comme ça, c'était un jeu pour eux, sachant, ils savaient très bien qu'en détournant cette petite rivière, ça allait avoir de grosses conséquences, puisque ces enfants sont enfants d'agriculteurs. Donc, ils connaissent la terre, ils connaissent l'eau, ils connaissent les incidences de la nature. Les Allemands, non. Donc, ces enfants détournent la rivière, il va y avoir des conséquences assez difficiles. Mais les habitants, grâce à l'action de ces petits, vont découvrir que l'air de rien... On peut faire quelque chose.
On peut résister.
On peut résister. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les enfants aussi découvrent que tous les Allemands ne sont pas nazis, que tous les Français ne sont pas gentils, et que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Et ça permet aussi d'avancer dans le processus de lecture, et ça sert aussi dans la vie de tous les jours.
Alors, il faut aussi préciser que c'est une BD historique.
Enfin, c'est une BD historique, voilà.
On fait ça de manière très précise.
Les auteurs se sont énormément documentés, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à la fin de chaque album, il y a un petit zoom sur la grande histoire, des articles qui font référence aux événements réels, une carte expliquant les zones d'occupation, et ça permet vraiment de se situer. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut en parler en famille. C'est un livre à partager entre parents, grands-parents, pour l'été qui s'annonce.
Eh bien, Monique Fauché, ça donne envie. Hein.
Oui. Et puis, le dessin est très intéressant parce qu'il y a à la fois, évidemment, le bruit. On imagine le bruit des bottes et on voit les bottes, en tout cas. Et puis, les enfants ont de bonnes bouilles, je trouve.
Oui, tout à fait. Voilà. C'est le dessin qui est entre le dessin d'autrefois... Et le dessin moderne. Et on s'attache à ces petites bouilles de ces trois petits jeunes.
Oui, tout à fait.
Les enfants de la résistance. Donc, c'est une série de BD donc parue aux éditions Le Lombard. Alors, si on descend en âge, vous vouliez nous parler d'un livre, enfin d'une bande dessinée aussi. C'est la première de son auteur, Gaël Genillet. Ça s'appelle Les fleurs de grand frère. Ça a l'air d'être une histoire très poétique. C'est un petit garçon qui se réveille un matin avec des fleurs qui lui poussent dans la tête.
Absolument. Ce grand frère se réveille.
Dans les cheveux, en tout cas.
Voilà, avec des fleurs qui poussent dans ses cheveux. Bon, c'est déstabilisant, pas facile à accepter, pas facile à vivre. Évidemment, vous allez vous demander pourquoi des fleurs poussent dans ses cheveux. Bon, dès le début, il n'y a pas d'explication. C'est pas cette origine qui est importante. C'est comme ça, on est mis devant le fait accompli, comme ce grand frère qui a ses cheveux qui poussent, ces fleurs qui poussent dans ses cheveux. Et ce qui est intéressant tout au long de cette bande dessinée, il y a évidemment le graphisme qui est magnifique et tout en poésie, et aussi l'avancée de la perception des personnages. Ils sont tous à l'écoute, tout est bienveillant, tout en délicatesse, en regard, en bonté. Ils accompagnent ce grand frère qui est dans la différence, Ce grand frère qui est surpris, apeuré et qui souffre d'être différent, peu à peu, il l'apprivoise et il apprend à maîtriser ses émotions. Donc de sa différence, il en fait une force. Et même s'il craint le regard des autres, de ses copains à l'école, il découvre qu'il est aussi accepté tel qu'il est. Enfin, c'est vraiment une pépite à lire en famille, tranquillement, c'est positif, c'est optimiste.
J'ai vu que c'était comme une sorte de fable, vous diriez.
Absolument,
ça.
Absolument.
Puis avec
voilà.
Des tons pastels en plus, on a l'impression que c'est un peu un monde imaginaire. Enfin.
C'est un monde imaginaire, mais c'est une... Moi, je dirais que c'est une très jolie leçon d'espérance. Voilà, la différence fait partie de la vie et il faut en parler et on l'accepte.
Donc, Les fleurs de grand frère de Gaël Genillet, cette fois c'est aux éditions Delcourt. Donc, première BD de cette femme. Et vous vouliez finir donc, avec un livre peut-être pour les tout petits. Je vois que Monique Fauché est presque.
Elle est en train de noter.
En train de dédicacer un livre. Je m'y perds. Vous allez nous parler donc de votre roman, Monique Fauché, pour finir. Cher Bertille et la lune en gruyère de Clémentine Mélois, cette fois, c'est aux éditions...
Mouche, l'école des loisirs.
Voilà, Mouche, l'école des loisirs. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'arrivais pas à trouver.
Voilà, donc c'est pour...
Cher Bertille et la lune en gruyère.
Tout à fait, c'est pour, on va dire, les petits, ceux qui ne savent pas lire ou ceux qui apprennent tout juste à lire, on va dire, voilà, maternelle et tout début de CP. Donc, Cher Bertille, c'est l'histoire d'une petite souris qui écrit. Donc, ce qui est très intéressant et qui rend le récit très dynamique, c'est que là, le personnage écrit. Et à notre époque, quelqu'un qui écrit, c'est quand même pas très courant. On a plutôt tendance à faire des SMS ou passer un coup de téléphone. Donc, première lettre, Bertille écrit à Monsieur Pavel parce qu'elle a décidé de partir pour les vacances d'été sur la Lune. Il faut savoir que Monsieur Pavel, c'est le descendant, le Laïka. Vous savez, la chienne du programme spatial soviétique. Donc, en plus de ce petit livre...
C'est un chien, donc, Monsieur Pavel.
Oui, voilà, c'est quand même... Voilà, et Bertille est une petite souris.
D'accord,
voilà,
pardon,
il faut remettre...
Excusez-moi,
effectivement, c'est moi qui n'ai pas précisé. Donc, on découvre une histoire sur le programme spatial soviétique, toujours sous forme très, très ludique et petites lettres. Voilà, il y a des petites références. Monsieur Pavel, qui, bon, il a beau être le descendant de Laïka, il n'y connaît strictement rien en fusée, puisque lui est pâtissier. Donc au passage, et il nous donne la recette du gâteau aux myrtilles, puisque c'est son péché mignon. Donc page 17, vous avez la recette du gâteau aux myrtilles.
Ça peut servir pendant les vacances.
Exactement, et puis le faire avec vos enfants. Monsieur Pavel, n'y connaissant rien en fusée, contacte un spécialiste de la mécanique, et ainsi de suite. Il y a toute une chaîne d'amitié qui se crée pour accompagner le désir de Bertille, qui est de partir sur la Lune. Donc, je ne vous donnerai pas la finalité.
Oui,
ni,
oui.
Voilà, comment ça...
Pourquoi c'est un beau livre? Qu'est-ce qui vous a touché là-dedans? Et à votre avis, pourquoi ça peut toucher
Ça peut plaire aux enfants parce que, bon, cette petite souris est très attachante. Elle a un rêve et elle met tout en œuvre pour pouvoir le réaliser. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut dire aux enfants, vous avez un rêve, tentez d'aller jusqu'au bout de votre rêve. Si vous l'avez, c'est très bien, mais au moins vous aurez construit quelque chose, construit du partage et de l'amitié.
Cher voilà. Bertille et la lune en gruyère de Clémentine Mélois, c'est donc paru aux éditions L'École des loisirs, collection Mouche.
Et Monsieur Pavel ajoute dans sa lettre un post-scriptum. J'ai consulté mon encyclopédie, il semble en effet que la lune soit constituée de fromage. Cependant, les astronomes se disputent pour savoir s'il s'agit de gruyère ou plutôt d'emmental.
Absolument.
Alors j'avais une dernière question, puisqu'il nous reste 2-3 minutes. C'est question aux deux grandes lectrices que vous êtes. Voilà, vrai point d'interrogation. C'est étonnant quand même comme certains livres nous marquent dans notre dans notre prime jeunesse. Qui ne se souvient pas du titre du livre qui l'a marqué étant petit. Quelle explication les deux grandes lectrices que vous avez ont de cela, Monique Fauché?
Étant petit, alors là, je ne sais pas.
Vous en souvenez pas? Vous n'avez pas le petit Rennes au nez rouge en tête ou équivalent?
Non. Alors là, non. C'est peut-être trop loin.
Moi, je dirais un peu plus grande quand oui. Au primaire, le club des cinq, mais c'est plus la génération de maintenant, Alice, avec sa petite voiture style une mini, je pense que c'est pour ça que j'ai été marquée, que ma voiture est un peu comme la voiture d'Alice. Et je crois que c'était une héroïne, elle menait des enquêtes, donc c'est vrai que c'est sympa de pouvoir s'identifier, voilà. Quand on est un peu timide.
Alors, Sylvie n'a peut-être pas connu, parce que c'est beaucoup plus ancien, Heidi.
Ah oui.
Heidi,
oui.
Qui vit en Suisse, et qui, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors là, oui, il y a plusieurs tomes.
Dans les montagnes avec son grand-père, absolument. Voilà.
Ouais. Bref, lisez, lisons, adultes, enfants, ensemble. Bref, le goût de la lecture, c'est probablement un des plus grands cadeaux qu'on puisse faire.
Et on ne s'ennuie jamais.
À ses enfants. Je ne vais pas rappeler tous les titres des livres. Allez, je vais en prendre quelques-uns à la volée. Le vol de la Joconde de Dan Frank, le dictionnaire, donc aux éditions Grasset, le dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson, c'est aux éditions Plomb par Jean-Marie Roire. La petite souris, c'est Chère Bertille et la lune en gruyère de Clémentine Mélois, paru aux éditions L'École des loisirs, et celui sur la résistance, cette série de BD Les enfants de la résistance, paru aux éditions Le Lombard. Merci beaucoup, mesdames.
Merci,
d'être
merci Emmanuel.
De Vivante Église.
Cette et bonnes vacances.
Et bon été à vous, si on ne se revoit pas.
Très bel été.
Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet, sur notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Thank you.